Bonjour, nous ne sommes pas sur LCI, nous ne sommes pas sur Radio France, nous ne sommes pas sur la nouvelle chaîne Info, et pourtant Radio Campus vous proposera quotidiennement, par tranche horaire, de l'information. Mais pas n'importe quelle information, de l'information étudiante, de l'information de proximité, de l'information que vous êtes utile. C'est pas Pernod, c'est pas le trésor de TF1. Alors qu'est-ce que c'est l'information sur Radio Campus Paris? C'est de l'information qui vous est destinée, c'est de l'information qui est traitée par des étudiants pour des étudiants. Qui mieux que les étudiants pour connaître leurs besoins, leurs envies, leurs demandes? Ce sera donc de l'information pour sortir, pour comprendre, de l'information pour travailler, parfois, mais aussi pour débattre avec des débats autour de grands thèmes, pour s'exprimer avec des interviews d'étudiants connus ou moins connus, mais qui vous apporteront toujours une vue plus grande sur le monde étudiant. Et pourtant, il ne s'agira pas non plus de faire du lobbying étudiant. Ainsi, Radio Campus traitera aussi de l'information mondiale, le matin avec des flashs d'infos pour vous donner la température du monde et les derniers événements mondiaux. Que ce soit au Japon, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Inde ou en Amérique, la rédaction de Radio Campus Paris triera les dépêches pour vous donner le meilleur, l'essentiel, ce qui vous servira. Parce que l'étudiant parisien n'est pas inerte et isolé, il est en phase avec la planète entière. L'info sur Radio Campus, c'est aussi l'information qui est développée grâce à l'Internet. Alors qu'est-ce que c'est? Internet est encore peu développé en France. Il regroupe son, images, vidéos, textes et liens hypertextes. Facilité, souplesse, vous êtes libre de vos mouvements. Nous proposerons donc des émissions avec, derrière, des dossiers images, sons, textes, afin de mieux comprendre. Et pourquoi ces dossiers complets? Parce que l'étudiant doit étudier. Ah, mais il n'y a pas que des études dans la vie, il y a aussi les sorties, la vie culturelle, les bons plans, parce qu'il faut aussi savoir décompresser et s'éclater. Alors c'est tout ça l'information sur Radio Campus Paris. C'est comme cette présentation, frivieuse, emballée, plein de passion, et c'est comme ça qu'on est.
Et c'est ici que démarre l'histoire de Radio Campus Paris, il y a 20 ans, en 1998. Pour l'occasion, nous vous proposons de remonter dans le passé grâce à une sélection d'archives dédiées à l'actualité. Cela vous rappellera peut-être des souvenirs, vous apprendrez certainement des choses, mais en tout cas, une chose est sûre, toutes les actualités que vous allez entendre ne sont pas véridiques. Alors saurez-vous distinguer le vrai du faux ? Commençons tout de suite par un saut en janvier 2003 avec...
L'Hebdo, le magazine de la rédaction de Radio Campus Paris, est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission, première formule, première édition, à propos de l'ennui, pas le nôtre, pas le vôtre, enfin j'espère, en tout cas l'ennui à l'école. Il y avait le mardi 14 janvier 2003, en Sorbonne, un colloque organisé par le Conseil National des Programmes intitulé « Culture scolaire et ennui ». Nous avons été y faire un tour, nous vous a ramené des choses intéressantes et peut-être même un petit peu ennuyantes, ce sera à vous de juger, mais toujours est-il que le magazine de la rédaction commence avec quoi?
Le magazine de la rédaction ne sera peut-être pas ennuyant, peut-être ennuyeux. En tout cas, la première partie de l'hebdo se fera avec la revue de presse, l'édito. Mais d'abord, les infos d'Héloïse.
La Côte d'Ivoire au cœur de l'actualité. Un sommet des chefs d'État africains s'est ouvert aujourd'hui à Paris en présence du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. L'enjeu, entériner l'accord de sortie de guerre en Côte d'Ivoire décidé par les protagonistes ivoiriens ces 10 derniers jours à Marcoussi. On le surnommait l'avocat Giovanni Agnelli, président d'honneur du groupe Fiat, s'est éteint le 24 janvier dans sa maison de Turin. Son décès intervient au moment où le groupe Fiat doit faire face à une crise sans précédent. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont menacés de chômage. La gauche française en deuil après Maurice Pialat et Françoise Giroud, c'est au tour d'Henri Krasucki de passer l'arme à gauche. L'ancien secrétaire général de la CGT est décédé vendredi à son domicile des suites d'une longue maladie. À gauche ou à droite, le nouveau président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a assuré qu'il n'abandonnerait jamais ses idéaux de gauche, je cite. C'était vendredi à Porto Alegre devant des milliers de militants anti-mondialisation. À noter aussi au Forum social mondial de Porto Alegre la présence du ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, commandité par Jacques Chirac. Luc Ferry, qui planche actuellement main dans la main avec Nicolas Sarkozy, sur le dossier de l'absentéisme scolaire. Il aura fallu un très officiel rapport pour se rendre compte qu'il s'agit là d'un phénomène inquiétant. Parmi les propositions du gouvernement, quatre axes, le renforcement des partenariats famille-école, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, les propositions d'études complémentaires et enfin la responsabilisation par la sanction à faire à suivre. Rosine Le Bachelot.
Felicity Jung, Begeistern mag.
Rosine Bachelot, vulgaire mais pas trop, au secrétaire américain à la défense Donald Rumsfeld, qui a qualifié la France et l'Allemagne de vieille Europe, Rosine Bachelot a répondu vertement « Cambronne ». De quoi plonger l'Amérique dans la stupéfaction, mais pas Radio Campus Paris qui a exhumé l'histoire du général Cambronne. Ce général blessé à Waterloo aurait répondu un merde retentissant à une sommation de se rendre. Décidément, Roselyne n'a pas la langue dans sa poche. Revenons aux choses sérieuses avec l'affaire Paris 11. Ce n'est pas par manque de subventions que l'université Paris 11 ne parvient plus à assurer ses frais en eau, chauffage, électricité. Une enquête vient en effet de mettre à jour les opérations d'investissement qui ont été décidées par l'université sur ses frais de fonctionnement. Bourse, pensez-y dès à présent, le formulaire de demande de bourse et de logement est disponible. Profitez donc de l'accalmie après examen pour remplir et retourner votre dossier social étudiant. Pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, la date limite à noter sur l'agenda, c'est le 30 avril. 16 000, c'est le nombre de postes d'assistants d'éducation qui seront ouverts en priorité aux étudiants à la rentrée 2003. Ils bénéficieront d'un statut d'agent public et auront la possibilité de présenter les concours internes de recrutement de professeurs et de CPE. Pour les amateurs de luxe, le grand gala de HEC se tiendra cette année le 1er février dans les salons de l'hôtel Intercontinental. Pour 18 euros, 23 euros sur place, vous pourrez jouer au casino, participer au concours de rock, dîner, déguster des vins fins et même avoir la conscience tranquille en participant à une tombola au bénéfice des associations pour l'enfance, UNICEF et l'Envol. Enfin, Paris, capitale de la création, c'est le nom de l'opération lancée ce week-end par la ville de Paris et l'office de tourisme. De la haute couture au prêt-à-porter, en passant par la lingerie, vous pourrez régaler vos pupilles devant la mode et les mannequins, dans des salons, musées, galeries, etc. Bref, dans de nombreux lieux accessibles au grand public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pariscapitaledelacréation.com.
Merci Héloïse.
Alors, info ou intox ?
Et maintenant, filons en avril 2008 avec cette chronique diffusée dans l'Extrabal, le magazine hebdomadaire de l'époque dédié à l'actualité de long en large et en travers.
Les funérailles d'Aimé Césaire, la lettre d'excuse rédigée par l'ambassadeur français de Chine et la victoire présumée d'Obama sont des sujets que je n'aborderai pas aujourd'hui. Non, naturellement, aujourd'hui, je vais plutôt parler de quoi je vais parler d'ailleurs. Des ventes aux enchères.
Ah.
Non, des ventes aux enchères. Un triceratops vendu chez Christie's à Paris aux enchères pour la modique somme de 592 250 euros.
Wow. C'est pas grand-chose.
Vendu à un Américain alors que la salle des ventes espérait peut-être le vendre à un musée ou autre.
C'est pas un musée américain
culturel. Non, non, c'est un Américain, un particulier. Ce triceratops qui avait plus de 67 millions d'années avait une collerette cervicale de 7,5 mètres de long. Il était pour 70% authentique, le reste de ses os était en résine.
Ah bon, il a été reconstitué ?
Oui, mais pour 30% seulement de ça. Il a été reconstitué.
Beaucoup de place chez soi pour mettre un triceratops.
Il faut beaucoup de place. Mais nous sommes justement allés interviewer le directeur de la vente aux enchères pour nous parler de ça. Alors, ce n'est pas Bernard qui l'a interviewé. Excusez-moi, Bernard est en vacances. Ouais. C'est Bertrand, ancien journaliste au droit de savoir, qui va nous parler de cette... Qui va interviewer justement le directeur. Alors, Bertrand, vous attendez ?
Écoutons-le.
Oui, tout à fait, Maxime. Je suis actuellement avec le directeur du centre des ventes aux enchères. Alors, monsieur, c'est une vente... Comment vous la qualifieriez ? Eh bien, écoutez, c'est une belle vente. Le constat est accablant. Mais que se cache réellement derrière les ventes aux enchères ? Sexe, drogue, prostitution, trafic d'organes, tout est bon pour enflouer les caisses. Nous avons rencontré Jacqueline, employée de la salle des ventes, qui a souhaité témoigner à visage masqué.
Je suis arrivée là il y a 8 ans. Et...
Violée, meurtrie, humiliée, Jacqueline n'ose pas témoigner.
Mais non,
la vente aux enchères reste un milieu dont les secrets ne seront pas encore percés.
Ah là là, ça affiche les jetons.
La vraie déontologie, hein. Ça c'est bien.
Tout à fait. Mais ça maintenant, manque. Nous allons aller ailleurs. Nous allons parler de Jeanne d'Arc.
Jeanne
d'Arc, la première femme au foyer. Là, vous êtes censé rire.
Foyer, je viens de comprendre. Excuse-moi.
C'est lent.
Ouais.
Bien, Jeanne d'Arc a été décapitée.
C'est pas vrai.
Si, si, elle a été décapitée à Rouen, là, au musée où au sous-sol, il y avait une exposition consacrée à sa vie. Il y avait une statue de cire de Jeanne d'Arc. Un visiteur anonyme d'une quarantaine d'années s'est glissé au sous-sol, a pris la hallebarde d'un garde de cire et a décapité la tête de Jeanne d'Arc.
C'était une vraie hallebarde.
C'était une vraie hallebarde, oui, tout ouais. à fait. Avant de s'emparer de la tête et de partir en courant, aussi avec quelques CD qui servaient à l'animation de...
Ah, il voulait la tête, alors.
Oui, voilà, tout
Quel
à
gros
fait.
Pervers.
Il voulait la tête.
C'est bien.
Donc voilà, il est parti.
Écoute, j'encourage tout le monde dans tous les musées de France à décapiter les...
Il est parti violemment, bousculant le directeur du musée sans aucune revendication.
Mais bah oui, mais c'est pas évident de décapiter les autres statues là, c'est de la cire, c'est facile.
Oui, bien sûr. Oui, donc c'est pour ça qu'il sans doute c'est pour ça sans doute
mais qu'il à quoi elle fait. Ressemble alors Jeanne d'Arc maintenant.
Et ben maintenant, on a mis la tête d'une statue, d'une autre statue à côté qui était statue d'une jeune anglaise. On a pris la tête pour la mettre sur Jeanne d'Arc.
Oh voilà, non, pas on peut pas
soit...
faire ça.
Si si, on a fait ça pour pas qu'elle soit anglaise. Pour pas qu'elle soit offusquée. Mais nous avons d'ailleurs Bertrand est allé interviewer toujours le directeur du musée. Bertrand, vous entendez?
Oui, tout à fait, Maxime. Je suis avec le directeur du musée. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors donc, que pensez-vous de ce vol?
Ah bah écoutez, c'est affreux, mais nous avons bon espoir de...
Le constat est accablant. Mais que se cache réellement derrière le fonctionnement de ce musée? Sexe, drogue, prostitution, trafic d'organes, tout est bon pour empocher le pactole. Michel, ancien guide, a souhaité témoigner à visage couvert.
Ah ben, ça a été un bon souvenir, hein.
C'est un homme détruit qui parle aujourd'hui, harcelé moralement. Ses enfants ont même été torturés et sa femme violée.
C'est horrible.
Devront-ils encore supporter longtemps cet enfer quotidien? Seul l'avenir nous le dira.
Non mais c'est une blague ce truc, je n'y crois pas du tout.
Oh, chut, devant.
Dirigeons-nous en novembre 2009 avec ce format court qui faisait état de...
Toute l'actualité du monde étudiant en moins de 5 minutes, c'est les infos du campus.
Bonsoir à tous, à la une de ce lundi 30 novembre 2009, l'UNEF rejoint la cause des étudiants sans papier, la mobilisation étudiante en Europe, les universités parisiennes se mobilisent pour la journée mondiale de la lutte contre le sida, la ville de Paris lance une opération speed dating du bénévolat et des bons plans pour occuper cette semaine pluvieuse. Il serait entre 1000 et 2000 en France des étudiants sans papier. Ils n'auraient pas accès aux résidences universitaires ni à la carte vitale ou ne peuvent simplement pas s'inscrire à la bibliothèque. L'UNEF a décidé de réagir. Le syndicat étudiant a lancé aujourd'hui une campagne pour la régularisation des étudiants sans papier. Jean-Baptiste Prévost a demandé au ministre de l'Immigration, Éric Besson, de faire respecter les engagements de la République. Nicolas Sarkozy a fait voter la mise en place en 2006 d'un titre de séjour par cycle d'études. Un engagement qui n'a jamais été appliqué. L'UNEF a lancé une pétition, des politiques, une quinzaine de présidents d'université et des artistes l'ont déjà signée. La mobilisation étudiante en Europe, nous vous en parlions la semaine dernière. Des manifestations se sont déroulées en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Les étudiants s'opposent à la privatisation et à la marchandisation des études. Ils ont mis fin à leur occupation d'auditoires à Zurich et à Genève. Le rectorat a accepté de mettre en place une salle de séminaire et un stand de la campagne « Education is not for sale ». Des débats publics pourront y être organisés. Le mouvement se poursuit cependant toujours à l'université de Lausanne où une pétition a été lancée. Et à Paris, c'est surtout la Sorbonne qui se mobilise. Une AG aura lieu jeudi midi pour voter ou non la grève. 400 000 Parisiens sont engagés dans le bénévolat, mais la ville en veut encore plus et elle lance cette semaine une grande opération speed dating. À l'occasion de la journée mondiale du bénévolat samedi prochain, les maisons des associations et les mairies des arrondissements tiendront des soirées rencontres avec les associations solidaires. Aussi au menu toute la semaine, projections de films, conférences, débats, tables rondes et expositions autour du bénévolat. Plus de détails au www.paris.fr. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et les étudiants parisiens se mobilisent encore cette année. Des activités de sensibilisation auront lieu dans une dizaine d'établissements de l'enseignement supérieur. Tables de prévention, conférences, expositions, espaces de conseil et d'écoute. Et les associations comme l'UNEF et la LMDE participeront aussi à la journée. Ils distribueront des préservatifs dans les cafétérias et les restaurants universitaires à l'achat d'un simple café. Ici à la MIE, l'association Étudiants contre le SIDA propose une exposition photo de calendrier. Le vernissage a lieu ce soir à 19h. Retrouvez les différents rendez-vous sur la page Actualité étudiante de notre site internet www.radiocampusparis.org. Que faire cette semaine? Eh bien, il pleut, il fait gris, qu'à cela ne tienne. Pourquoi ne pas en profiter pour redécouvrir les bijoux du cinéma? L'Université Paris Diderot vous invite à sa cinémathèque. Des films rares, peu connus, courts-métrages. Venez fouiner dans ces petits chefs-d'œuvre. Demain soir, 17h, on vous présente le documentaire Badass Cinéma, l'histoire de la blaxploitation, un courant culturel des années 70 qui a revalorisé l'image des Afro-Américains. Revisiter les extraits de films de l'époque, bandes-annonces et interviews de grands réalisateurs. Il suivra à 19h le film Across 110th Street, film policier entre mafia et communauté noire d'Harlem. Tout ça, c'est dès 17h à l'Université Paris 7, amphi 7C, à l'eau farine, au 3e étage. Et le festival Silence en cours revient pour sa 3e édition cette année. Un festival pour les jeunes réalisateurs, initié par l'Université Paris-Ouest, Nanterre, La Défense et l'association étudiante L'Envolée Bleue. L'objectif est de promouvoir le cinéma contemporain et favoriser l'émergence de nouveaux talents. Alors si vous avez moins de 30 ans et que vous souhaitez participer, envoyez vos courts-métrages avant le 15 janvier 2010. Informations et inscriptions au www.silenceencours.fr.
Alors, info ou intox?
Faisons un petit bond en décembre 2010 avec le magazine d'actualité et de reportage Désintox.
La crise du logement, la foire d'empoigne pour les étudiants en recherche de piôle, fameuse rengaine, marronnier des médias, réalité un peu amère pour les étudiants en mal de thunes. Certains trouvent des solutions. Jeudi noir, les galériens du logement squattent des immeubles inhabités avec les risques d'expulsion et de procès que l'on connaît. Des Crous créent des logements dans des containers comme au Havre. Et puis ça y est, une idée a germé. Un concept venu tout droit de Belgique est expérimenté en France par la FEV depuis septembre. Les colocations à projet solidaire, les CAP, avec un K. Quatre villes testent ce projet pilote dans le but de le développer. À Paris, Lyon, Toulouse et Poitiers, des étudiants sont logés dans des appartements individuels ou en colocation à des prix moindres et sans caution à fournir. En échange, ils doivent suivre 2 heures par semaine un jeune d'un quartier populaire. Ils doivent aller à la rencontre des habitants pour diagnostiquer leurs besoins. Le but, recréer du lien social par des actions solidaires. Cela peut aller de la garde d'enfants à l'animation d'une place ou au soutien d'associations. Laura Dangoumo a 22 ans, elle est étudiante en IEFM, en master d'enseignement, et elle est une capseuse à Paris. Elle nous accompagnera tout au long de l'émission. C'est parti.
Bon, on y va. On y va. On y va.
Allez, on y va avec mes complices de toujours, Paul et Leïla, et un petit nouveau, Nicolas. Ils vont nous réserver quelques chroniques et quiz riches en vitamine C. Salut à tous.
Salut Daphné.
Salut.
À ma gauche, Laura, une colocataire solidaire dans le quartier de La Chapelle à Paris. Le Crous a proposé 5 logements étudiants à la FEV en échange d'actions solidaires dans ce quartier populaire. Ce quartier est souvent stigmatisé à cause d'une forte pauvreté et d'un taux de chômage élevé. Les étudiants du projet CAP sont justement là pour montrer qu'il y a des choses à faire et des bonnes volontés. Derrière les préjugés de ce quartier, il y a des habitants en manque d'infrastructures, d'animation et de solidarité. Laura, tu vas nous expliquer pourquoi tu as décidé de t'installer dans ce quartier et de t'engager pour recréer du lien social, et avec un petit accent toulousain en prime. On t'écoute.
Mmh, bonjour. Donc pourquoi j'ai décidé de m'engager dans ce projet, c'est qui me paraissait très intéressant. Pour plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai travaillé à la FEV, j'ai été bénévole à la FEV et j'avais toujours envie de garder un pied dans cette association parce que je me reconnais beaucoup dans son projet. Et donc le fait de s'intégrer dans un quartier qu'on ne connaît pas, ce qui est le cas pour moi vu que je viens d'arriver à Paris, ça m'a plu et puis ça me permettait aussi d'avoir un appartement de façon assez simple et pas trop cher, ce qui m'a fait un peu peur avant.
C'est le problème à Paris. Avant que tu nous expliques cette expérience, toi, si tu as été sélectionnée pour ce projet, c'est parce que tu es une bénévole à la FEV. Tu peux brièvement nous expliquer quelles étaient tes fonctions à la FEV à Toulouse avant de monter à Paris?
Oui, alors donc j'étais d'abord bénévole, c'est-à-dire que 2 heures par semaine, j'ai accompagné des enfants de primaire et de collège. J'allais les voir pour faire de l'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire les aider à l'école, les remotiver, voire les aider, leur donner des conseils pour s'organiser, pour travailler, pour les ouvrir à autre chose que ce qu'ils connaissaient. Et ensuite, j'ai été volontaire associative, donc en service civil. Et là, j'ai monté des projets de développement, d'accompagnement culturel, de journaux. J'ai participé à au montage d'un festival aussi.
Et puis en septembre, tu es venue à Paris pour faire partie du projet CAPS, donc la colocation à projet solidaire. Où est-ce que tu as emménagé exactement ?
Alors, on est dans le 18e rue Max Dormois.
Dans le 18e, donc dans le quartier de la Chapelle. Ouais. Et combien êtes-vous dans ce projet ?
Alors, on est 5. Donc, il y a Eddy, Claire, Lucille, Adrien et moi.
Et vous avez quelle sorte de logement ?
Alors, il y en a 2 qui sont en colocation et ensuite, on est 3 à avoir des studios de 15 mètres carrés.
Et ça vous apporte des aides ? Est-ce que vous avez un loyer intéressant ?
Donc, c'est une résidence CROUS. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu accès à cette résidence-là, ce qui n'est pas facile à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a le loyer du CROUS et donc, pour moi, c'est 330 euros.
Alors, des chiffres à revérifier, mais il me semble qu'il y a un logement étudiant pour 13 étudiants à Paris. Donc, effectivement, c'est une chance. Et vous payez combien de loyer et vous avez droit aux APL ?
Donc, je paye 330 euros de loyer et j'ai droit aux APL.
Mais je crois que c'est grâce à un partenariat avec la BNP que vous n'avez pas...
J'ai lu ça, moi, que la BNP Paribas s'était engagée avec soit la CAPS ou avec la FEP directement, et qu'en fait, vous aviez pas de caution à donner. Enfin, je ne sais pas si c'est
la caution, on est passé par les mêmes chemins que tout le monde. Par contre, la BNP Paribas est un partenaire de la FEV au plan national, donc il nous aide pour beaucoup de choses.
Alors, en échange de cet appartement, de cet accès facile et un logement étudiant, qu'est-ce que vous avez comme mission ?
Alors, comme mission, on doit monter un projet sur le quartier, sur des résidences qui sont vers la porte de la Chapelle, donc rue Boucry et rue Queneau. C'est des bâtiments qui logent environ 600 personnes et on est allé rencontrer là-bas les habitants, des associations, des élus municipaux qui travaillent tous là-bas et qui nous ont un peu dit comment ils voyaient les résidents, la résidence et ce qu'on pouvait apporter nous de notre côté.
Le CAPS, c'est pas un jeu aussi ?
C'est pas le cap ou pas cap plutôt ?
Non, c'est pas ça. Enfin bref, on en reparle après, il y a la séance qui reprend.
Et retrouvons-nous maintenant en janvier 2011 avec le fil du campus qui a un petit message de prévention à nous communiquer.
Attention, tout abus d'information est dangereux pour la santé. Si vous ressentez les premiers symptômes tels que curiosité, esprit critique ou faculté d'analyse, nous vous conseillons d'éteindre la radio. Le fil du campus déclinera toute responsabilité. Merci.
Et bonsoir à tous et bienvenue
bonsoir,
dans le
Florian.
Fil de... Salut Maxime, salut Mathieu.
Salut.
Dans le fil du campus, l'actualité étudiante en moins de 5 minutes ou presque. Au sommaire ce soir, c'est une spéciale révolte de la jeunesse. On fera le point sur les mouvements de contestation des jeunes en Algérie, en Tunisie, au Yémen, pour ne citer que ces 3 pays, un mouvement global, international, qui intervient un mois à peine après les manifestations étudiantes en Europe. On terminera ce flash comme d'habitude par l'info débile du jour. Je vous le disais dans le sommaire, ça bouge du côté de la jeunesse et cela un peu partout en même temps. En dépit de la syntaxe plus que douteuse de la phrase précédente, il est désormais avéré que le mouvement de contestation populaire parti d'Algérie et de Tunisie s'étend comme l'ombre d'une vague dans la lumière d'un coucher de soleil. Oui, je suis très lyrique ce soir, Maxime.
Beau.
Ainsi, alors que le cadavre encore fumant des manifestations étudiantes européennes quitte peu à peu le monde de la contestation, comme en Grèce, en Italie et en Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas de l'Algérie, de la Tunisie, du Yémen, du Soudan, qui se soulèvent contre des régimes tantôt autoritaires, tantôt sourds d'oreilles aux revendications populaires. La colère qui se répand depuis 3 semaines maintenant est révélatrice d'un malaise profond de la jeunesse qui subit de plein fouet la précarité. Le taux de chômage est en effet de 20% chez les jeunes tunisiens et de 30% parmi la jeunesse algérienne. Aujourd'hui, c'est au tour des étudiants yéménites d'entrer en action avec une manifestation organisée dans la ville de Sanaa. On pouvait lire dans les cortèges des banderoles qui clamaient « Tunis de la liberté, Sanaa te salue mille fois ».
C'est vrai qu'on dit yéménite ? C'est pas une invention de ta part ?
Mais non.
Pour une fois, non. Ok, bien bien, bravo, ouais. Bravo.
C'est l'adjectif qui qualifie les habitants du Yémen.
Tout à fait.
Pendant ce temps-là, en Angleterre, le mouvement étudiant a fait pchit ou plof ou poc. Choisissez l'onomatopée d'abandon qui vous conviendra.
Poc. Pchit.
Très bien.
Poc. Moi, c'est poc.
Pchit.
Très bien. Je serai donc plof pour ce soir. On terminera avec cette citation, pardon, d'une étudiante britannique sur l'abandon des revendications. Je cite « Nos parents aussi ont payé cher pour faire des études. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on s'en plaigne. » Voilà, on passe à l'info débile du jour.
Ouais.
Et l'info débile du jour, c'est Radio Grenouille qui appelle Radio Campus Paris pour commander une pizza 3 fromages. Non content d'arborer un nom de radio à l'effigie d'un sympathique batracien, la station marseillaise n'a que ça à foutre d'appeler le 93.9 pour se livrer à des calembours putassiers dignes d'un Philippe Bouvard après une soirée bien trop arrosée.
Oh.
Mais outre la private joke qui, chers auditeurs, vous exclut totalement depuis plusieurs longues secondes, Radio Campus Paris tient à saluer la qualité, l'originalité, la fraîcheur et l'intégrité crasse d'une radio marseillaise qui s'appelle Radio Grenouille donc et qui par ses appels téléphoniques puérils quoique sympathiques me permet de combler le vide célesto-cosmique dû à l'absence d'informations en ce lundi 17 janvier. J'aurais aussi pu vous dire que l'info débile aurait pu être cet homme qui, parce qu'il a flatulé en toute confiance sur son lieu de travail, a été licencié pour, je cite, nuisance. Mais non, on en parlera peut-être demain sur ce rendez-vous demain, du coup je viens de le dire, à 18h, 19h, mais l'heure, mes fréquences, tout ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que Radio Grenouille nous écoute? Parce qu'à la limite, ce seraient les seuls auditeurs que l'info débile du jour intéresse aujourd'hui.
Ouais, c'est pour ça que je parle d'eux. Tu vois.
Mais
pour une fois, ça touche des gens.
On est sûr qu'ils nous écoutent puisque nous sommes écoutables sur le www.radiocampusparis.org.
Waouh! Wow. Mais quel art du teasing, c'est.
Et les gars, ça s'appelle du teasing, ça, les gars. Ça.
Ou du marketing.
Admirez. Du ti-marketing, même.
Ticketing.
Ou du marketing. Je ne sais pas.
Marketing, j'aime bien.
Du marketing, on dira ouais. Du marketing.
Sur ce, je m'en vais. Ciao.
Merci Florian et à demain pour un nouveau flash de 18h et prochainement, sans doute, pour un billet d'humeur dans la matinale que tu nous promets depuis tant de mois.
Ah, ça c'est méchant.
Alors, info ou intox ?
Appuyons sur le bouton avance rapide pour aller jusqu'en octobre 2011 et écoutons attentivement ce flash info exclusif révélé par Radio Sympa.
Et oui, en direct sur Radio Sympa, nous prenons l'antenne pour vous annoncer une information politique exclusive sur laquelle nous n'allons pas manquer de revenir en direct avec nos spécialistes politiques ici en plateau. Alors, je suis Nicole Chic dans les prés et je vais vous annoncer en rapport avec la primaire qui se déroule actuellement dans la classe de CM2 de l'école élémentaire de Madame Girardot. Nous venons d'apprendre la situation géographique de cette primaire, puisque jusqu'à présent, on ne savait pas dans quelle ville de France elle allait se dérouler. La nouvelle vient de tomber, ça se déroule à Tours.
Ah, c'était une information très importante. Ouais.
C'est très important parce que je vais y revenir avec les spécialistes d'ici quelques instants. On peut y voir une volonté de décentralisation de la vie de l'école primaire Paul Berthe. Alors, maintenant qu'on sait où va se dérouler ce scrutin attendu, et on va tout faire pour savoir dans les minutes qui arrivent, hein, on va garder l'antenne dès que possible, pour essayer de comprendre quels sont les événements exacts, comment se déroulent ces élections, parce qu'on le rappelle, ce sont des élections de délégués de la classe de CM2, donc une école primaire. À Tours. Alors, j'ai ici avec moi mes spécialistes. Nous avons tout d'abord Rachid Juif. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Bitte. Jean-Pierre Bitte des Dernières Nouvelles d'Alsace. Pardon.
On rigole souvent avec vous.
Oui,
on
fait rigoler souvent. Mais priorité à l'info.
Tout à fait.
Bien, alors nous allons revenir effectivement sur cette information. J'ai avec moi également...
Oui, oui.
Fabrice, un peu de chat.
Excusez-moi.
Il y a une ambiance. En fait,
moi, je comprends que les gens rient. Voilà.
En fait, c'est la tension. Nous attendons cette nouvelle depuis plusieurs jours. Maintenant qu'on a la réaction exacte de cette primaire. Alors Rachid Juif, qu'est-ce que vous
Alors, c'est une élection déléguée.
Alors, attendez.
C'est une élection déléguée.
C'est une information
importante, mais essayons de rester calme.
Depuis la réforme de 1978, je ne me trompe pas, mais vous êtes là pour me le dire, une réforme du mode de scrutin. Effectivement, le scrutin est passé d'un scrutin uninominal à un tour, à un scrutin uninominal à deux tours.
C'est vrai.
Alors, quand cette réforme est passée, évidemment, c'était plutôt pour favoriser les petites filles par rapport aux petits garçons. Aujourd'hui, les règles ont complètement changé, puisque vous savez, même dans l'école publique, l'égalité est maintenue. Donc finalement, ce scrutin n'a plus aucune espèce de valeur. Et pourtant, on continue de le garder. C'est un archaïsme qui provoque beaucoup de troubles et qui, je crois, pour cette élection, va être décisif pour envoyer cette classe dans le mur.
Non, mais excusez-moi de vous interrompre.
Vous m'interrompez pas, j'ai fini ma phrase.
L'année dernière, dans ce même CM1B, c'est quand même une fille qui a été élue, on se rappelle.
Oui, mais bien
c'était
sûr.
Petite Jessica Lori.
Mais bien sûr, mais c'est l'exception qui
compte. Excusez-moi, mais il faut quand même préciser un truc, c'est qu'on passe complètement à côté du vrai problème, qui est que les gens nés en début d'année sont toujours favorisés, puisqu'ils paraissent plus grands, plus adultes.
Oui, non, mais on a dit ça des gens qui avaient des souliers neufs. On a dit ça des gens qui avaient des cartables plus grands que les autres.
Jean-Michel Scrotum de nos régions ont du talent magazine. Je tiens quand même à dire que par rapport à ces gens qui sont nés en début d'année, qui ont plus de chance, c'est faux. Rappelez-vous, en 88, le petit Kevin Gauthier, qui, alors qu'il était du mois de novembre, a été élu largement en tête Valentin Berthier.
C'est l'expression
pour le petit Gauthier, c'est différent. C'était quand même le fils de la prof principale.
Et alors, on oublie aussi que la classe était complètement terrassée par la varicelle, ce qui veut dire qu'il y avait très peu de candidats à l'époque.
Et on se rappelle des valises de billes qui ont été données à gauche et à droite, les canaux. Certains parlent d'un boulard jaune.
C'est un argument qui a été avancé par une certaine partie.
Le boulard n'a jamais été trouvé, oui.
D'autre part, excusez-moi, on parle de sacs de billes qui auraient été donnés. Une fois de plus, ne faisons pas le jeu des extrêmes.
Ce sont des rumeurs, effectivement. Restons sur les faits présents, puisque...
On a quand même retrouvé des sacs de POG dans le casier du petit Kevin.
Ce sont de vieilles histoires. Alors, si je peux me permettre, pour revenir sur les gens nés en début d'année ou pas...
Le petit Kevin a été aussi accusé d'avoir collé des crottes de nez sous la table, et on l'a regardé, il n'y avait rien.
Ça a été confondu, c'était des bâtons de colle UHU qui restait un petit peu sous la table.
Je voudrais revenir sur les gens favorisés nés en début d'année ou pas, où il y a aussi une perversion dans le système, puisque les gens en début d'ordre alphabétique sont complètement favorisés par rapport à ceux qui sont en fin d'ordre alphabétique, parce que rappelez-vous, au primaire, nous nous occupons des cahiers de texte à tour de rôle et ça commence dans l'ordre alphabétique. Alors, comme les élections ont lieu en début d'année, on a souvent les gens qui ont la lettre de nom de famille qui commence entre A et D qui sont élus délégués.
On se rappelle que l'année dernière, c'est Alain Abba qui a gagné.
Madame Colchic, il y a des gens qui se laissent encore berner par l'image d'un petit garçon ou d'une petite fille portant un cahier de texte pour affirmer son sérieux, c'est leur problème. Aujourd'hui, tout le monde sait que porter un cahier de texte, vu que c'est par ordre alphabétique,
c'est à la portée de tout le monde.
Les gens sont intelligents. Vous avez tendance, par votre commentaire, à prendre les électeurs et les électrices et les observateurs comme nous pour des imbéciles.
Pas du tout. Ce n'était pas du tout mon objectif.
Reparlons-en plus tard, mais je pense qu'il faut se tenir au courant, effectivement. Déjà, parce qu'on sait là un petit peu la nouvelle
principale,
qui est que les primaires ont bien lieu dans une école à Tours.
Voilà, d'ici quelques instants. Alors, on reprendra l'antenne. Vous restez avec moi sur ce plateau et on n'hésitera pas à revenir sur l'antenne de Radio Sympa dès qu'il y a du nouveau dans ces primaires à Tours.
Avec plaisir, parce que de toute façon, ils ne m'ont pas invité sur elle.
Ah, mais c'était pour ça le scandale du trafic de billets qui avait éclaté à l'époque.
Une sacrée affaire de corruption qui avait secoué le milieu de la cour de récré.
On se retrouve après la pub.
Alors Berthier, comment ça va aujourd'hui ?
Oh, bof, j'ai comme le cou engourdi ce matin.
Le cou engourdi ? Attention mon vieux, allez consulter au plus vite, ça peut être très grave.
Chaque année, c'est plus de 3412 personnes qui sont touchées par le cou engourdi. Avant qu'il ne soit trop tard, consultez votre nucologue le plus proche.
Ceci était un message du CNONAPRE, le Conseil National de l'Ordre des Nucologues Amateurs de Parasie, et de Berlin Next.
Après cette courte page de publicité, rendons-nous tout de suite en décembre 2012 pour écouter le flash de la rédaction.
Bienvenue dans ce flash de la rédaction. Une garantie jeune pour aider les 18-25 ans en grande précarité. C'est ce qu'a annoncé mardi Jean-Marc Ayrault à l'issue d'une conférence nationale sur la pauvreté. Alors concrètement, à combien elle s'élève? Qui pourra en bénéficier? À partir de quand? On vous explique tout ça dans ce journal. Erasmus officiellement sauvé des eaux. Le Parlement européen a accepté mardi le projet de finances de l'Union européenne pour l'année 2013. Un budget qui permettra à 280 000 étudiants du vieux continent de voyager l'année prochaine. Et dimanche, les partisans de l'égalité des droits pour les couples homosexuels appellent à manifester. Le cortège partira à 14h place de la Bastille. Parmi les organisateurs, les associations LGBT, mais aussi SOS Racisme et le Front de Gauche. Lors de la conférence contre la pauvreté qui s'est achevée mardi dernier, les mesures concernant la précarité des jeunes étaient attendues. Jean-Marc Ayrault, y a répondu avec la garantie jeune. Alors Charles-Henri, bonjour.
Salut Martin.
Alors ce dispositif annoncé par le Premier ministre n'est pas vraiment une nouveauté, c'est plutôt une version améliorée du contrat d'insertion sociale. Ça avait été créé en 2005 par Jean-Pierre Raffarin.
En effet, un dispositif visant à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d'insertion professionnelle, ce CIVIS, contrat d'insertion dans la vie sociale, avait un objectif, mener à un emploi durable. Le voici renforcé donc par ce qui est nommé une garantie jeunesse. À l'instar du CIVIS de base signé avec la mission locale, ce super CIVIS sera signé avec Pôle emploi et s'adresse aux plus démunis des 18-25 ans. Il se traduit par un accompagnement renforcé mais surtout par le versement d'une allocation équivalente au montant du RSA socle, soit 475 euros. 100 000 personnes par an pourront en bénéficier à partir de 2013.
Et la garantie jeune devra entrer en vigueur en septembre 2013, donc vous l'avez dit Charles-Henri, mais elle est déjà sous le feu des critiques.
Et oui, déçu de ne pas avoir été consulté, le syndicat étudiant Lafage dénonce une annonce qui ne s'inscrit pas dans une logique durable et structurée. Elle pointe du doigt les critères d'attribution de cette garantie jeunesse, car si le gouvernement suit l'exemple du CIVIS en place, l'attribution relèvera, selon Lafage, de la subjectivité d'un conseiller qui choisit seul s'il accorde une aide ou pas, ainsi que le montant de cette dernière. Souhaitant que le RSA soit accessible à l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans, l'organisation étudiante appelle le gouvernement à engager une véritable politique ambitieuse et cohérente pour mettre fin à la paupérisation de la jeunesse de notre pays. Depuis sa création en 2005, près de 800 000 jeunes ont bénéficié du CIVIS. Parmi eux, 34% ont pu trouver un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Un bilan plutôt décevant.
Oui, c'est pas faux. Merci beaucoup Charles-Henri pour toutes ces précisions. Erasmus, enfin sauvé. L'avenir du programme d'échange était menacé par les plans d'austérité mis en place dans toute l'Europe. Mercredi, le Parlement européen a validé le budget de l'Union européenne pour l'année 2013 et Erasmus sera bien de la partie. L'UE a obtenu une rallonge de 6 milliards pour boucler ce budget. Ils seront 280 000 étudiants européens à voyager l'année prochaine. Pour rappel, en 25 ans d'existence, Erasmus a permis à plus de 2,2 millions de jeunes issus de 33 pays d'étudier à l'étranger. Dimanche, les manifestants pour l'égalité des droits des couples homosexuels sont appelés à descendre dans la rue. Le rendez-vous est fixé à 14h place de la Bastille. Le cortège se rendra jusqu'à l'Opéra Garnier. Plusieurs associations LGBT mais aussi SOS Racisme ou le Front de Gauche font partie des organisateurs. À cette manifestation est le thème de ce soir de la matinale LGBT. Jonathan reçoit Emmanuelle Compon, c'est la présidente du collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. Rendez-vous donc à 19h sur Radio Campus Paris. Les universités françaises se mettent au merchandising. Aux États-Unis, la pratique est courante. La plupart des étudiants ont leur t-shirt ou casquette aux couleurs de leur établissement. En France, c'est la Sorbonne Nouvelle Paris 3 qui se lance avec une boutique en ligne. Alors on retrouve toute la gamme des produits siglés Sorbonne Nouvelle, sweat, bonnet, mug, tout y passe. Et c'est loin d'être gratuit. Par exemple, pour crâner avec votre sweat à capuche Paris 3, il vous en coûtera 25 euros. Plusieurs universités de la capitale ont déjà lancé leur propre boutique, comme Paris 1 ou encore Descartes Paris 5. Solidarité internationale lance un appel aux dons. L'association a besoin de financement pour fournir des kits d'urgence aux Syriens réfugiés à la frontière turque pour fuir les combats entre les rebelles et les forces de Bachar el-Assad. L'association manque cruellement de fonds pour agir. Pour donner rendez-vous sur le site Solidarité internationale tout attaché et au singulier.fr. Et impossible d'y échapper, Noël est absolument partout en ce moment. À Radio Campus Paris, on ne peut pas vous sauver de l'interminable dîner familial, mais on vous propose deux marchés de Noël un peu spéciaux. Le truc pour trouver le cadeau qui va mettre votre grand-tante Thérèse sur le cul. Le premier se tient demain à 14h jusqu'à dimanche 21h au Garage Mu dans le 18e arrondissement. C'est le collectif musical Mu qui l'organise à l'occasion des 10 ans de l'association. Un marché indé avec des créateurs et des DJ en live pour mettre l'ambiance. Le deuxième Christmas Market se tient au point éphémère. Disques, livres, accessoires de mode, déguisements pour enfants, épicerie fine et comestibles bio. Ça se passe samedi et dimanche de 13h à 21h. Donc moi je vous souhaite un bon week-end. Salut.
Alors, info ou intox ?
Restons en décembre 2012 avec cet extrait de l'émission spéciale La Nuit de la Faim.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal de 13h. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 décembre et voici les titres. À la une, plus d'êtres humains sur Terre suite à cette terrible radiation hier soir qui a touché Paris en particulier. Nous irons ensuite à Barc-en-Vesoul pour le traditionnel défilé des majorettes et puis nous terminerons ce journal par ce magnifique reportage sur les 100 ans de Provence. Mais tout de suite, la météo avec Nathalie.
Putain, s'il en reste un avec ces Jean-Pierre Pernaut, merci quoi.
Bonsoir à tous. Météo France nous annonce la dégradation des conditions météorologiques suite à cette radiation qui a perforé le front anticyclonique. Mais ne vous inquiétez pas, les températures seront en hausse sur l'ensemble du territoire. On note 283 degrés dans le bassin méditerranéen. N'oubliez pas de mettre une petite crème, par exemple. Au nord, il fera un petit peu plus froid avec 124 degrés. Et puis à Paris, quelques nuages sont à prévoir, mais ne viendront pas gâcher ce beau soleil violet.
Et depuis cette apocalypse, tu sais que j'ai un troisième œil qui m'a poussé dans le cou.
La chance!
Ouais, mais j'ai dû abandonner ma coupe mulet. 50 soins capillaires partis en fumée.
On se retrouve après la pub.
Elle commence sa course dans les hauteurs du Vésinet.
Docteur, pour l'opération, je préférerais payer en liquide.
J'allais vous le proposer.
Elle passe devant les quais de Bercy.
Dis donc, là, il y a un gros mouvement.
Laisse tomber, on va dire que c'est pas notre boulot.
Elle se régénère au cœur des montagnes suisses.
C'est comme le bon vin, monsieur. Hein. Personne ne doit avoir les clés de votre cave, tenez.
Elle est servie jusque sur les meilleures tables de Singapour.
Garçon, la même chose. Encore une que la France n'aura pas.
Cahuzac, la fraude qui coule de source. Déclaré d'intérêt privé depuis 1628.
Et si on l'appelait Rio Cahuzac ?
Ah oui ! Ah oui !
Après cette courte page de pub, écoutons tout de suite cette chronique diffusée dans la matinale de 19h, le magazine d'information actuelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir, Charlène.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 14 novembre ? Car nous sommes aujourd'hui le 14 novembre.
Bien vu. Eh bien, mes chers collègues, mes auditeurs adorés, mes gentils ignares, mes petits analphabètes, mes enfants chéris, bonjour. Une fois de plus, le ministère de la Jeunesse à casquette et du Poulet Maffé m'a confié la tâche difficile, mais non moins enthousiasmante, d'éclairer un peu vos lanternes et de remplacer vos ignobles connaissances en matière de télé-réalité de cupcake à la carotte parce que certains nomment la culture. Aujourd'hui est un grand jour, le 14 novembre, 318e jour d'après le calendrier grégorien, 47 jours avant la fin de l'année et seulement 29 jours avant mon anniversaire. Coïncidence ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, nous fêtons les Sidoines, sainte connue pour son amour de la fouille et des frontières. Le proverbe le dit bien, Sidoine, tu croises, les papiers du véhicule tu montreras. Comme d'habitude, nous allons constater qu'il n'y a pas de hasard. Qui fête son anniversaire aujourd'hui ? Eh bien, que des grands, des illustres, des maîtres à penser, des Pygmalions de la caboche, des Yoda du cervelet. Pour n'en citer que quelques-uns, nous souhaitons aujourd'hui un joyeux anniversaire à Stéphane Baird, Nagui et Patrick Sébastien. Nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à mon serrurier et une joyeuse Pâques à ma tante qui n'a jamais été foutue de retenir les dates.
Joyeux anniversaire.
Chatoyant 14 novembre, mais cruel, injuste 14 novembre, qui réserve la fête à certains tandis que d'autres macèrent dans l'ignorance et l'oubli. Car oui, c'est la journée mondiale du diabète. Il existe 7 types de diabète, mais l'on retiendra surtout le numéro 5, le diabète insipide. Il s'appelle vraiment comme ça. Ce qui nous rappelle le fameux cancer anodin, le banal scorbut ou la fadasse variole. Oui, aujourd'hui, c'est la fête à l'insuline, la nouba du sucre, la surboom de la picouse. Mais dans tout ça, on oublie que c'est aussi la journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors qu'on se le dise, quand il s'agit de gras, il y a du monde, mais pour s'activer la ventoline, plus personne. Il en dit des choses sur notre triste monde ce 14 novembre. Mais oh les cœurs, il se passe aussi de bonnes choses le 14 novembre. C'est la journée de la femme en Colombie, Sébastien Loeb a obtenu le titre de champion de monde de rallye un 14 novembre, et le chien de mon voisin a enfin appris à chier dans le caniveau. Dans la grande histoire, c'est un 14 novembre que l'on inaugura l'Institut Pasteur. Un 14 novembre qu'Apollo 12 se posa sur la Lune, et pas la Lune.
La Luna.
La Luna. Et pour voir plus loin dans l'avenir, ce sera un 14 novembre que le petit-fils de François Hollande, revenant de son exil forcé sur l'île de Sainte-Hélène, inventera le concept de gauche décomplexée. Un 14 novembre sera inventée la tongue sur pilotis pour quand la marée monte. Et enfin, un 14 novembre sera inaugurée, dans le 15e arrondissement de Paris, la maison européenne de la photographie ratée parce que t'as mis ton doigt sur l'objectif gros patapouf. Un 14 novembre, un jour à part, 14 novembre. À 4 lettres près, c'est l'anagramme de embarqueron. Restent les lettres Z-O-V-E. Que peut-on faire de ces lettres en trop ? Eh bien, on peut les faire revenir avec un peu d'huile, griller à l'apéritif, c'est un délice. Ou encore, et ça amuse beaucoup les enfants, se les accrocher en boucle d'oreille, c'est pas cher et c'est original. Pour conclure, mes chers petits sauvageons, j'ose espérer que vous avez compris qu'il faudrait être fou ou aveugle pour ne pas comprendre la vaste manipulation qui se trame ici. Rendez-vous dans une semaine pour vous parler d'un jour à part lui aussi. En attendant, je vous abandonne car on m'appelle au Collège de France pour animer un débat qui me moustille d'avance. Le Velcro va-t-il mener le capitalisme au déclin ?
Alors, un faux ou un tox ?
Et pour finir, nous achevons notre voyage spatio-temporel en septembre 2016 en écoutant une chronique diffusée dans une émission encore d'actualité sur les ondes. Il s'agit de Chablis Hebdo.
Madame, messieurs, bonsoir. Au sommaire et pour le grand retour du JT le plus assidu et consciencieux que la Terre ait jamais porté. Ohé ohé. Du bronze, un pirate, des chats, une montagne, une piscine, un bateau, une femme, une prison, du sport, de la musique, de l'alcool, du rire et bien sûr de l'intelligence. Non, je déconne, pas d'intelligence, hein, faut pas abuser. On ne change pas à une formule qui gagne presque. Bon, moi aussi, j'ai quand même pris quelques bonnes résolutions forcées à la suite de mon passage dans le bureau de Monsieur Bolossé. Malgré des négociations bien bien fermes, nous avons convenu que je devais informer, documenter, éclairer, je dirais même plus renseigner nos auditeurs sur ce qu'il se passait dans le monde. À défaut d'être viré, j'accepte donc la mission et commence tout d'abord en dénonçant très très fort, oulala, tremble studio, l'histoire de deux policiers. Et oui, dans ce JT, on n'hésite pas à s'en prendre à la police, hashtag thuglife. L'histoire de deux policiers, donc, qui eux aussi, justement, ont voulu faire croire qu'ils avaient une vie de voyou en déclarant avoir atteint le sommet de l'Everest alors que c'était faux. Alors comme ça, on pourrait se dire, bah, rien de grave, hein, qu'on jette le premier parpaing à celui qui n'a jamais menti, n'est-ce pas Yves ?
Les
Non, rien. Vous n'écoutez même pas. Donc là, tout le monde quitte le studio. Je ne...
Ça fait plaisir. J'ai l'habitude des parpaings.
Non, de mentir. Les deux hommes, Dinesh et Ratara.
La première émission.
Ouais. Pardon ?
Elle m'agresse, je n'ai rien dit.
Bref, donc les deux hommes sont même allés jusqu'à truquer des photos pour faire croire qu'ils étaient bien arrivés au sommet. Avant que dénoncés par d'autres alpinistes, une enquête ne soit ouverte pour prouver que finalement, ils n'étaient jamais montés tout en haut. Un mensonge qui leur a coûté quand même 10 ans d'interdiction d'escalade sur l'Everest. Quoique bon, s'ils n'étaient pas montés la première fois, pas sûr qu'ils le fassent vraiment dans 10 ans. Et une bonne grosse honte auprès des collègues. Je frappe encore plus fort, plus haut, plus vite, avec cet instant culture consacré au compositeur américain Dave à la sortie le 28 octobre prochain de son nouvel album dédié aux félins. Et oui, c'était l'info de Patrick. Il en faut pour tous les goûts dans ce JT, j'étais même pour loin. Les auditeurs chiants. Pourquoi il y a un son qui part comme ça?
C'est
grave, je suis en plein milieu du JT, super, merci beaucoup.
C'est le son dont tu parles, c'est ça.
Que j'écoute bien tout ce que je dis, c'est super.
J'aimerais que j'étais pas loin.
Super. Et oui, il en faut donc pour tous les goûts dans ce JT, même pour les auditeurs chiants de France Culture. Du coup, ben juste pour les informer que ce violoncelliste et chercheur a donc composé un album entièrement destiné aux chats, sur fond de ronron et d'échos semblables à des miaulements pour, dit-il, aider ces animaux à se détendre et s'apaiser. Une belle initiative hein, dont tout le monde se fout, mais comme dirait Cyril Hanouna, un peu de culture, ça fait pas mal au cul. On continue dans l'information de haute importance avec la preuve que le monde est fou, 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 voyez-vous, polyester en 1990, avec l'histoire de cet Américain qui prépare la prison à sa femme, hein, comme si nous, les filles, on était insupportables, hystériques et cinglées. Pas du tout. Laurence Ripple, 70 ans, donc ne supportant plus la colocation avec sa femme, plutôt que de faire comme tout un chacun, personne normalement constituée, c'est-à-dire partir, a préféré braquer une banque avant d'être jeté en prison. Pour cela, il s'est donc rendu dans une banque, effectivement, où il a passé au guichet une note mentionnant qu'il portait une arme avant d'attendre l'arrivée de la police et de leur expliquer calmement « Je préfère encore être en prison plutôt qu'à la maison ». Bravo champion. Justement, en vous parlant champion, et c'est là que la deuxième info arrive, on savait que la France s'était minablement faite écraser à la finale de l'Euro de football, allez on le répète, qu'elle s'était lamentablement faite massacrer par les Américains et les Chinois aux derniers Jeux Olympiques. Eh bien rassurez-vous, nous venons de redorer notre blason, notre estime est enfin sauve grâce à cette nouvelle médaille. Mieux que la médaille d'or de Teddy Riner au judo, le double sacré de la boxe française, la médaille de bronze au championnat du monde de cache-cache. Et oui, c'est officiel, le monde nous l'envie, mais c'est bien la France qui a remporté le bronze. Non, le bronze.
Ah oui,
on n'est même pas le champion
pas
du monde.
Gagné l'or, quoi. Ah bon c'est...
Mais oui, le bronze.
Qui a gagné l'or ?
Les Chinois.
Les Éthiopiens, ils étaient 10 derrière un tronc d'arbre.
On sait pas, on les a pas trouvés.
C'est mal du tout. Pour la Belgique.
Une information qu'il aurait sans doute fallu garder cachée.
Tiens, en parlant de ça, c'est bientôt l'heure de l'entraînement pour les prochains championnats du monde de cache-cache. On y va ? Ouais, allez, on va la voir, cette médaille d'or.
L'actualité s'est terminée, mais restez à l'écoute sur Radio Campus Paris.